RFI. Le Monde à midi.
Des milliers de manifestants dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem après le limogeage du chef de la sécurité intérieure en Israël. Le gouvernement a acté vendredi le départ de Ronen Bar à la tête du Shin Bet, décision qui a été suspendue dans la foulée par la Cour suprême en attendant une audience le 8 avril prochain. Si le gouvernement ne respecte pas l'avis de la Cour, l'opposition menace déjà d'entamer une grève générale. La situation politique qui se tend donc à l'intérieur du pays dans le contexte d'une reprise des opérations dans la bande de Gaza. Bonjour Alain Dikoff.
Bonjour.
Vous êtes politiste, directeur du Centre de recherche internationale à Sciences Po, spécialiste de l'État d'Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou accuse aujourd'hui le chef du Shin Bet d'avoir, sans son accord, enquêté sur le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir. Est-ce que ce sont, selon vous, des accusations plausibles ?
Très difficile de répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est que ça prouve, enfin, c'est un élément supplémentaire qui prouve qu'en effet, il y a une détérioration très très nette des relations entre Netanyahou, les services de sécurité intérieure, pour le coup, et puis aussi, bien évidemment, tout l'échelon judiciaire avec la procédure aussi de destitution de la procureure générale de l'État. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait inédit, en réalité, et dont les développements sont encore à venir.
Alors on va effectivement revenir sur la procureure. L'opposition, les opposants au gouvernement estiment eux que le chef de la sécurité intérieure aurait finalement été limogé puisque le Shin Bet aurait cherché des informations dans le cadre d'une affaire nommée Qatargate dans laquelle des proches du Premier ministre sont soupçonnés par le Shin Bet justement d'avoir reçu des pots de vin en provenance du Qatar. Ça aussi, est-ce que c'est plausible ?
Il semblerait qu'il y ait en effet des éléments qui indiquent que de l'argent qatari serait arrivé à des personnes qui gravitent autour de Netanyahou. Bon, ce qui est au-delà de la dimension factuelle, pour encore une fois, qu'il est assez difficile de véritablement vérifier aujourd'hui, ce qui paraît assez clair, c'est que et les procès contre Netanyahou qui sont déjà en cours le montrent, c'est qu'il y a quand même beaucoup de conflits d'intérêts, soit du Premier ministre directement ou de gens qui sont autour de lui, et donc un brouillage un petit peu entre des intérêts privés et puis évidemment la gestion de l'État. Et donc ça, c'est de toute façon très mauvais.
Alors vous l'évoquez effectivement, le gouvernement israélien a aussi voté une motion de défiance contre la procureure de l'État qui avait elle aussi émis des réserves vis-à-vis du départ du chef du Shin Bet. Où est-ce que veut aller Benjamin Netanyahou concrètement ? Est-ce qu'on peut parler d'une dérive autoritaire de la part du Premier ministre israélien ?
Ce qui est certain, et la réforme de la justice qu'il avait engagée au tout début de l'année 2023, donc avant la guerre d'octobre, allait déjà dans ce sens. Hein. La réforme de la justice, c'est vraiment une volonté d'affirmer le poids du pouvoir exécutif, en particulier face au judiciaire. Alors, du fait de la guerre, cette réforme est restée un petit peu sur le bas-côté. Mais en réalité, à travers ce qui se joue ces derniers jours, on voit que c'est vraiment clairement cette volonté d'affirmer la prévalence un peu du pouvoir exécutif qui est en jeu, même s'il faut aller certaines procédures actuellement en cours, ce qui évidemment est totalement illégal, parce que il y a quand même un minimum de procédures à respecter, et là, dans le fond, le Premier ministre et son cabinet, hein, parce qu'il a quand même eu un vote à l'unanimité pour la démission un peu forcée de la procureure de l'État, montre vraiment là que, dans le fond, même s'il faut un peu enfreindre des procédures légales, il y a une volonté très claire d'affirmer la prééminence du pouvoir exécutif.
Mais c'est vrai que, concernant la réforme de la justice que vous évoquiez, Alain Dikoff, elle avait déjà rendu le Premier ministre israélien très impopulaire, il y a eu beaucoup de manifestations à ce moment-là. Est-ce que donc ces dernières tentatives, ces nouvelles décisions de la part du gouvernement, justement, pourraient refracturer ou fracturer encore plus la population, déjà quand même assez fracturée concernant la guerre en Ukraine, le sort des otages qui restent détenus par le Hamas ?
Non, il est tout à fait clair que ça va redonner, je dirais, une capacité de mobilisation aux opposants de Netanyahou, parce que c'est quand même une remise en cause assez frontale de l'état de droit. Et je pense que ça va en effet fracturer davantage la société. Sur les clivages assez classiques, hein, je veux dire, il n'y aura pas de bouleversement dans le sens où ceux qui soutiennent Netanyahou vont continuer à le faire, et ceux qui étaient ses opposants avant vont continuer à le faire. Mais là, évidemment, c'est un motif pour l'opposition de se remobiliser contre le Premier ministre.
Et tout cela intervient en plein débat sur le budget, hein, l'Indicov, qui doit être adopté d'ici la fin du mois. Est-ce que justement cette échéance et les décisions que l'on vient d'évoquer, est-ce qu'on peut évoquer un lien entre ces deux choses?
Alors non, il n'y a pas de lien sur ce plan-là, mais c'est sur un autre plan où Netanyahou a dû manœuvrer, c'est vis-à-vis des ultra-orthodoxes. Parce que c'est eux qui finalement menaçaient de ne pas éventuellement soutenir le gouvernement pour le passage du budget. Et finalement, il est parvenu à les convaincre de surseoir et donc de voter le budget. Donc il n'y a plus de menace à l'heure actuelle pour le gouvernement de tomber pour défaut de majorité d'ici la fin du mois. Donc ça, c'est au moins pour le court terme, Netanyahou a sauvé sa peau.
Merci beaucoup Alain Dikoff. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre de recherche internationale à Sciences Po, spécialiste de l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous.